Comment penser le complexe d'Œdipe aujourd'hui, dans notre société contemporaine, en proie à une crise des idéaux et à l'émergence de nouvelles formes de sexualité? La névrose n'a pas disparu, mais les états limites sont devenus le mode adaptatif prévalent dans un monde en mal de figures d'autorité solide, s'enfonçant dans une misère symbolique. Dans cet épisode, François Richard nous propose son concept du complexe d'Œdipe déformé. En partant des conceptions théoriques freudiennes, puis de ses successeurs, il va nous expliquer ici une forme spécifique de l'Œdipe infantile rémanente chez l'adolescent et l'adulte qui permet de mieux comprendre les états limites. François Richard est psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris. Il exerce la psychanalyse en pratique libérale à Paris et a longtemps travaillé dans diverses institutions médico-psychologiques. Psychologue clinicien, il a aussi effectué un parcours d'études en sciences sociales, ce qui a élargi sa réflexion sur l'incidence des facteurs sociaux sur la psychologie individuelle. Professeur de psychopathologie à l'Université Paris-Cité, il a dirigé de nombreuses thèses et colloques, ainsi qu'à un moment la revue Adolescence. Il est l'auteur d'ouvrages ayant fait débat, notamment « Le processus de subjectivation à l'adolescence » en 2001, « L'actuel malaise dans la culture » en 2011 et « Le surmoi perverti, bisexualité psychique et état limite » en 2021. Ses recherches actuelles portent sur la crise de civilisation en cours, les processus de sublimation, en particulier dans la littérature, le polymorphisme sexuel, les états limites, les relations entre cadre et contre-transfert face à ce qu'il propose de penser comme un complexe d'Œdipe structurellement déformé. Je suis Julia Flore Alibert et je suis heureuse de vous présenter Talks on Psychoanalysis, le podcast consacré à des sujets d'actualité sur la psychanalyse à travers le monde avec la voix des auteurs originaux. Cette série de podcasts, publiée par l'Association Psychanalytique Internationale, ou IPA, fait partie des activités du comité de communication de l'IPA et est produite par l'équipe de rédaction des podcasts de l'IPA. Le responsable de cette équipe est Gaetano Pellegrini. À la rédaction et post-production, Massimiliano Guerrieri. Pour rester informé des dernières parutions de podcasts, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui.
Chers amis et collègues, je vais vous parler de ce que je nomme Œdipe déformé, une forme spécifique de l'Œdipe infantile rémanente chez l'adolescent et chez l'adulte, qui permet de mieux comprendre les états limites. Mais d'abord, quelques mots sur la destructivité à l'œuvre dans le monde contemporain, que j'avais commencé à penser dans mon livre de 2011, L'actuel malaise dans la culture. Les états limites apparaissent dans le monde d'aujourd'hui comme le fonctionnement adaptatif prévalent, une façon de vivre qui recourt à des modalités variées et complexes de subjectivation. La névrose n'a pas disparu, mais on voit désormais qu'elle est faite pour une large part de cette panique libidinale contenue que l'état limite révèle et même exhibe. De nombreux sujets s'installent dans la limite, ni dans la transgression, ni dans la normalité, il flotte dans un lien fragile à la réalité. Cet état est considéré comme naturel par l'environnement socioculturel où les idéaux ont été fragilisés par une crise structurelle de l'autorité. Le mélange d'une organisation névrotique avec les fonctionnements limites n'est pas une nouveauté. En 1929, dans Le malaise dans la culture, Freud distingue l'adolescent inhibé n'osant s'attaquer à ses parents idéalisés du jeune homme à l'abandon sans parents, devenu délinquant. Puis, il dégage dans le défaut d'autorité paternelle le trait commun qui relie les deux situations. Les refoulements chez l'un comme chez l'autre, sont soit très sévères, soit insuffisants. Ajoutons, en même temps très sévères et insuffisants. Le trouble des limites chez les jeunes délinquants permet à Freud de repérer un trouble similaire à l'œuvre chez l'adolescent névrosé. L'état limite chez l'adulte dériverait d'un inachèvement du processus adolescent de symbolisation, d'appropriation subjective et de surmontement d'un mélange complexe des niveaux archaïques et oedipiens. La tension entre un trouble existentiel et la confrontation aux parents oedipiens peut suspendre le processus de subjectivation, comme le montre bien Raymond Kahn. Le malaise dans la culture est devenu une crise de la sexualité. La libération sexuelle a échoué, d'une part parce que la féminité spécifique de l'homme et la masculinité spécifique de la femme ne parviennent pas à se stabiliser par crainte d'un excès de polymorphisme érotique. D'autre part, l'évolution historique dans le sens d'une remise en cause des interdits nourrit une peur qu'il n'y ait plus d'interdits, tandis que la sublimation ne trouve plus d'idéaux vers lesquels se diriger. Notre modernité est malade, malade d'une catastrophe du sensible, en manque d'un rapport suffisamment immédiat au monde. Elle donne l'impression d'être en proie à une misère symbolique. La libido, privée d'objets d'investissement culturellement valorisables, dans un contexte de crise de la famille et des idéaux collectifs, s'engouffre dans des flux en circuit court, parfois jusqu'à une perversification de la pensée, envahie par des éléments bruts non métabolisables. Je développe cette conception dans mon livre de 2022, « Le surmoi perverti, bisexualité psychique et état limite », où je donne des exemples cliniques. La situation semble être la suivante. L'inhibition du désir vrai, relié à l'histoire singulière et aux objets internes inconscients oedipiens, utilise les mécanismes compliqués des fonctionnements limites plutôt que le mécanisme plus simple du refoulement. On a alors affaire à des pathologies mixtes, névroses, fonctionnements limites, dans lesquelles le conflit pulsionnel intérieur au psychisme théorisé par la psychanalyse, toujours central, s'est en même temps transformé en quelque chose de différent. Il faut donc repenser les états limites à partir de cette complexité, de cet enchevêtrement où affleure une distorsion primaire de l'Œdipe, corollaire d'identification primaire incertaine et d'une sexualisation incestueuse prégénitale. Dans l'un de ses écrits testamentaires de Londres, peu avant sa mort, Freud donne une forme à quelque chose qui a peut-être toujours existé, mais n'a que depuis peu trouvé une large expression. Des plaisirs vécus dans l'insatisfaction, la solitude, la non-rencontre, la sensation que l'autre n'est pas vraiment là, ou la sensation que l'expérience sexuelle ne fait que recouvrir deux auto-érotismes qui s'utilisent l'un l'autre. Je cite « La conscience de culpabilité se développe aussi à partir de l'amour insatisfait, comme la haine. À partir de ce matériau, nous avons dû véritablement produire tout ce qu'on veut comme les états autarciques dans leurs produits substitutifs. » Reprenons la progression de cette tournure très condensée. L'insatisfaction de l'amour, la culpabilité, puis les défenses autarciques. C'est peut-être mieux trouvé que identitaire narcissique ou calimite. Défenses autarciques qui vont jusqu'à leurs produits substitutifs, c'est-à-dire jusqu'à l'infini des constructions psychiques addictives, schizoïdes et contradictoires de la personnalité moderne. Dans une autre de ses ultimes notations de 1938, Freud évoque la faiblesse de la synthèse par le moi, corollaire d'une conservation du caractère des processus primaires. Puis il ajoute « La sexualité infantile a encore une fois ici fixé un prototype. » Il invite par là, je crois, à penser les fonctionnements contemporains en processus primaire à partir d'une sexualité déchirée entre fixation infantile et recherche d'ersatz. Ainsi, un sujet refuse-t-il l'engagement amoureux par crainte de devenir dépendant, ce qu'il déclare volontiers? Ou bien s'en écarte-t-il pour éviter une coalescence avec des fantasmes incestueux mal refoulés? Il se pourrait, dans le même sens, que les questions qu'expriment de nombreux adolescents concernant une possible homosexualité ou une incertitude quant à leur genre, ou encore un souhait de changer de genre, représentent aussi une inquiétude relative à des vœux incestueux, hétérosexuels et homosexuels inconscients. Les libertés conquises depuis une cinquantaine d'années répondent à des idéaux d'émancipation. Il faut désormais les justifier au cas par cas, ce qui est difficile. Tel affranchissement est proclamé bienfaisant, tel autre nuisible, sans que la délimitation soit toujours claire. La morale sexuelle actuelle sous-estime certains dérèglements. Impact de la pornographie sur Internet qui invite à une compulsion désubjectivée infinie, sexualité chaotique des jeunes adolescents, banalisation d'actes sexuels moins satisfaisants et dérivation vers des addictions par exemple. Et la liste n'est pas limitative. La complexité de la situation nourrit une simplification par renversement dans le contraire. Néo-puritanisme, exigence de transparence, moindre valorisation du désir et de l'état amoureux, jusqu'à la revendication, dans certains cas, d'une asexualité. Le souci de départager les bonnes et les mauvaises attitudes relationnelles génère une anxiété défensive dissociée de pratiques sexuelles qui visent surtout une évacuation de la tension libidinale ou des moments sexuels ponctuels séparés du reste de la vie. Le mot « identité » s'est imposé comme un leitmotiv dans le vocabulaire des psychanalystes, ainsi que dans les polémiques sur l'évolution des sexualités et des parentalités, ou dans les grands débats politiques entre pro- et anti-identitaires, lesquels promeuvent, à la place des anciennes, de nouvelles identités. Dès qu'on l'énonce, il résonne comme un mot magique qui réunit la question et la réponse. Il enivre les esprits qui croient avoir trouvé un nouveau paradigme, alors qu'il traduit un affect. Mieux vaut, je crois, penser en termes d'identification plurielle, où les processus de subjectivation peuvent se déployer dans l'écart entre les sentiments superficiels et subjectifs d'identité et les logiques profondes des identifications. Les pathologies de la subjectivation ont, dans l'histoire de la psychanalyse, souvent été mises au compte de l'identité. Cette notion tend aujourd'hui à réunir moi idéal, idéal du moi et sur moi, en une entité unique et idéologique. Je cite Erik Erikson en 1945. Il écrivait à propos des jeunes soldats rentrant des combats du Pacifique aux États-Unis. Tout se passait comme si, subjectivement, leur vie avait perdu toute cohésion et ne pourrait plus jamais en retrouver une. Il y avait chez eux une perturbation centrale de ce que j'ai commencé à appeler l'identité de soi, ego identity. Le problème humain se serait déplacé, ajoutait-il. Je cite encore. La recherche sur l'identité dès lors devient aussi stratégique que l'était celle sur la sexualité à l'époque de Freud. La formation d'une identité commence là où l'identification cesse d'être utile. Paradoxe. Le problème est de développer une et une seule identité pour chacun d'entre nous. Or, celle-ci est plurielle, plastique, psychique. L'identité serait le plus intime de soi et en même temps ce que nous sommes pour les autres. Ou encore, l'identité résulte d'un parcours totalement personnel et tout autant de l'histoire, de la généalogie et de la culture. On y passe vice-versa du psychosexuel au social en une circularité qui réclame tour à tour de dissoudre les identités, de les revendiquer et d'en créer de nouvelles. Evelyne Questimbert analysait bien cette ambiguïté en 1984. « Allô, bonjour, c'est moi. Qui, moi ? Moi, ben, eh bien moi, Astrid. » Elle ne doutait pas un seul instant que je la puisse reconnaître. Et en effet, au bout d'un certain temps, j'avais appris à le faire. Une rencontre a lieu dès lors qu'est répondu « Qui, moi ?» au vœu de la patiente d'être pour son analyste l'unique. Condition d'existence plus que d'identité. D'Astrid, adolescente amoureuse d'une camarade de classe, on dirait qu'elle est homosexuelle. Mais Questimbert trouve critiquable de donner d'emblée une dimension narcissique à ses amours homo. Elle parle d'identification et d'homosexualité primaire entre fille et mère, comme d'un amour pour une personne qui est semblable mais pas identique. Elle écrit aussi « Le sentiment qu'on a de bien savoir de quoi on parle lorsqu'on dit « c'est un adolescent ou une adolescente » est en fait un leurre. Car eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. Lorsqu'un adolescent ne peut s'identifier à aucune imago parentale, il peut croire se retrouver dans telle ou telle identité. Et le clinicien risque de prendre pour argent comptant cette notion qui surgit d'un vécu dépressif confusionnant et d'une accumulation de micro-traumatismes dans un environnement trop excitant qui ont rendu impossible la constitution d'une phase de latence et d'idéaux attractifs pour le moi. Nous nous intéressons à la plasticité psychique bisexuelle des patients, enfants, adolescents et adultes, au risque de ne pas suffisamment entendre l'angoisse de castration et les désorganisations mortifères sous-jacentes, issues de désirs incestueux, insuffisamment symbolisés et liquidés. S'ils oscillent entre des identifications féminines et masculines, ils sont en fait encore plus embarrassés par la contradiction entre le puissant attrait de la génitalité et les charmes insistants du polymorphisme infantile. La bisexualité psychique penche toujours plus d'un côté que de l'autre. Ce que l'on appelle pathologie identitaire commence, je crois, avec ce déséquilibre entre sentiment d'être plutôt du côté masculin ou plutôt du côté féminin. Nous entendons les variations intimes des patients entre féminité et masculinité. Au sein de la féminité, entre le masculin de la féminité et le féminin de la féminité, etc. Il faut bien utiliser ces mots, nous n'en disposons pas d'autres. La partie masculine du moi dialogue avec sa partie féminine telle qu'il se la représente. Green écrit « Ce n'est pas le sexe de l'autre qui se représente dans la bisexualité, mais l'idée que l'on se fait du sexe de l'autre du point de vue de son propre sexe et de ce que ce propre sexe lit dans le regard que le sexe de l'autre porte sur lui. La partie de l'homme qui se sent femme connaît par ses éprouvés anatomiques ce qu'est un corps d'homme. Il en va de même pour la partie de la femme qui se sent homme, informée par son expérience sensorielle. » La bisexualité psychique, système organisateur, est souvent dépassée par une pulsionnalité où Eros et Thanatos tendent à se désintriquer dans un narcissisme polyérotique qui laisse facilement la place à des solutions purement addictives. L'émergence génitale pubertaire réveillant la sexualité infantile, l'adolescent est parasité par des fantasmes bisexuels invasifs. L'issue fréquente consiste en une désexualisation. Un adolescent ressent une douceur féminine de son pénis en se masturbant pour modérer sa violence pulsionnelle phallique. Une adolescente joue la carte de l'amitié masculine pour contre-investir la force de ses désirs. Ces renversements dans le contraire traduisent la crainte qu'ont les adolescents d'attaquer et de détruire leurs objets internes d'hypiens, tant masculins que féminins. Ce à quoi répond un genre volontairement unisexe neutralisé ou une allure hypersexuelle tout aussi symptomatique. L'insistance du mode infantile de désir au sein du pubertaire relance sans fin l'excitation. Cette compulsion polymorphe peut faire basculer vers des éprouvés de collage fantasmatique à l'objet primaire. Le complexe d'Œdipe et structurellement déformé. Aussi bien dans le cas de figure classique où il organise la vie du sujet soumis à une conflictualité magnifique mais névrotisante, que dans le cas de figure où il s'est dès le début fourvoyé dans des identifications instables, aliénées au désir des projections inconscientes parentales. La redécouverte de l'objet à la puberté dont parle Freud réactualise la problématique archaïque où le moi ne sait plus si ce qu'il ressent provient de lui ou de l'autre. L'objet génital magnifié entre alors inconsciemment en coalescence avec le sein. Cet objet originaire rêvé qui englobait les objets partiels, dans la croyance adolescente en une complémentarité sans faille des sexes. Comment pouvons-nous prévenir la menace dépressive déréalisante lorsqu'advient ce type de régression? La signification d'ensemble est oedipienne, mais se voit fragilisée et même attaquée par des éléments sexuels infantiles intriqués à une régression mortifère. L'impact quantitatif des pulsions trop fortes pour le moi immature favorise la régression. Freud exprime ainsi la passion précoce du petit enfant pour sa mère. Tout dans le domaine de cette première liaison à la mère m'est apparu difficile à saisir analytiquement. Blanchi par les ans, pareil à une ombre, à peine susceptible d'être rendue à la vie, comme si cela avait succombé à un refoulement inexorable. Le désir incestueux n'est pas représentable parce que son excès attaque la pensée, suscite le refoulement et parfois même, ajouterai-je, un désir de disparaître si ce refoulement échoue. Je propose de nommer Œdipe déformé, distordu, ce destin où le désir amoureux est subverti par le sexuel infantile, désespérément attaché à l'objet primaire qui échappe. Le désir amoureux régresse. Prégénitalisé, il reste sexuel, mais se distingue mal de l'incestualité narcissique où il s'agit surtout de s'agglutiner à l'autre primordial dans un phénomène spéculaire, en miroir. On peut interpréter cet Œdipe devenu anti-œdipien et ainsi contenir parfois, même liquider, les potentialités psychotiques. Si l'on parvient à entendre, dans l'intervalle masculin-féminin, les ravages d'un échec du principe de plaisir. J'en donne plusieurs exemples cliniques dans mon livre de 2021, Le surmoi perverti, bisexualité psychique et état limite. Il s'agit bien ici de cette fascination en miroir entre parents et enfants portant sur des objets partiels, dont parle Racamier, mais aussi de l'Œdipe au sens freudien, car c'est l'excès sexuel objectal lui-même qui génère les décrochages narcissiques mortifères, de sorte que les désirs régressent en excitabilité prégénitale, parfois jusqu'à un breakdown, une cassure vers le bas, comme le disent fort bien Aiglé et Mauzès Laufer. Une confusion d'allure psychotique suscite alors des clivages défensifs qui contiennent insuffisamment l'excitation projetée régressivement sur les objets primaires. Ces dérèglements mortifères internes à la pulsion finissent par cristalliser une structure tragique où le sujet se perd lui-même autant qu'il perd l'objet, entre tendance dépressive et agressivité féroce. Pour rester sujet, il accepte le préjudice fait à son moi idéal. Puis, il transforme l'excitation dont il est la victime en moteur de sa pensée. Lorsque la structure œdipienne se déforme trop, sous le choc en retour des failles du refoulement originaire, nous passons du travail analytique à la prise en charge de psychoser, finalement. L'Œdipe déformé révèle ainsi crûment une torsion psychotique de la pensée et de la perception derrière les défenses narcissiques et addictives. L'analyse reste possible, mais à condition d'adapter la méthode dans le sens d'une attention plus soutenue dans l'écoute et d'un style dialogique, conversationnel dans l'interprétation. Ce type de patience s'est déposé projectivement en nous l'étrange mélange d'obligation à jouir et de renoncement pulsionnel caractéristique de l'Œdipe déformé. Nous devons alors nous livrer à une élaboration intense de ce qui est insuffisamment lié par notre interlocuteur. Ce complexe d'Œdipe déformé, distordu et même carrément tordu, éclaire une situation où la prégénitalité amorce la série œdipienne. Il s'agit de situations compliquées, inextricables parfois, qui participent à la fois, chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, de l'incestuel narcissique proche de l'indifférenciation et du désir sexuel le plus cru. Je parle ici, vous propose cette notion, d'un Œdipe primaire mal triangulé, imprégné par ce que comporte de perversion native la sexualité infantile. Il s'efface normalement dans le développement, mais reste toujours susceptible de ressurgir. Je vous remercie pour votre attention.